Slate Podcast.
Bonjour, c'est Lucille Bélan. Tous les 15 jours dans C'est compliqué le podcast, je réponds à vos questions sur les relations humaines. Amour, amitié, sexe, bref, tout ce qui vous touche, vous fait souffrir et vous préoccupe. Cette semaine, nous entendrons le témoignage de Johanna, 20 ans, qui est attirée par les hommes autant qu'ils la terrifient. Elle a envisagé le lesbianisme politique en vain. Elle est aujourd'hui découragée à l'idée de ne toujours voir en les hommes que des prédateurs.
Bonjour Lucille, je m'appelle Johanna, j'ai 20 ans et je suis étudiante à Paris. J'ai eu plusieurs copains qui m'ont souvent choquée par leur manque d'empathie, par leurs difficultés ou même incapacité à parler de leurs sentiments et à comprendre les miens, et également par la facilité avec laquelle ils faisaient recours à la violence, à la colère ou à l'agressivité. À cause de mon histoire personnelle, j'y suis particulièrement sensible et c'est quelque chose qui me blesse profondément, qui me fait peur et qui souvent m'amène à penser que la relation est peine perdue car ni moi ni la personne en question n'est apte à changer. C'est pour cette raison que je me suis souvent demandé si je ne serais pas plus à l'aise avec une femme. C'est une idée qui me plaît, que j'ai retournée dans tous les sens, mais malheureusement, je me sens profondément et irrémédiablement attirée par les hommes, et je ne pense pas que l'on puisse décider de l'inverse. Alors tout simplement, j'aime les hommes, mais ils me terrifient. Après plusieurs échecs de relations amoureuses plus ou moins liés à cette problématique, j'ai vu grandir en moi une grande mélancolie et un découragement quant à mes futures relations. Si c'est vrai, je dois guérir mes propres traumatismes, j'ai peur de toujours voir les hommes comme des prédateurs. Il n'y a pas grand-chose à faire à l'heure actuelle, mais du coup, quels pourraient être tes conseils sur ces interrogations? Merci.
Chère Johanna, comme vous, je me demande parfois ce que les hommes m'ont apporté. Et je trouve peu de choses, ou peu en comparaison de ce qu'ils m'ont pris, que je leur ai donné ou qu'ils se soient servis tout seuls. Dans le monde dans lequel on vit, on parle de balance bénéfice-risque, et en ce qui concerne les hommes et mon expérience personnelle, cette balance était clairement du côté du risque. J'ai très souvent payé cher des moments que je croyais heureux, ou des instants de plaisir, parce que les hommes que j'ai croisés, comme ceux dont vous parlez et comme beaucoup d'autres, nous veulent du mal. Parfois de façon inconsciente, parce qu'on leur a appris à s'imposer, avec des mots ou physiquement, même dans le quotidien, même dans le banal, même dans la moindre discussion, même ceux qui sont censés nous aimer. Moi aussi, des hommes m'ont abîmée. Ils m'ont blessée, ils ont cherché à m'éteindre, ils ont refusé que je sois totalement ce que je suis pour avoir plus de place pour eux. Alors oui, je comprends votre questionnement. À titre personnel, je ne crois plus aux couples hétérosexuels. Ou plutôt, je crois qu'on paye extrêmement souvent un prix trop élevé pour ce qui n'est en réalité pas un privilège. En tant que femme, on nous a beaucoup dit et appris que le couple était une des seules façons de se réaliser et d'atteindre le bonheur. Je vois à quel point c'est un mensonge. Les femmes authentiquement heureuses en couple que je connais me semblent une exception. Et je ne suis pas derrière elles toute la journée pour évaluer leur charge mentale, leur charge sexuelle ou les conséquences de la vie commune sur leur carrière. Mais on dirait qu'elles sont heureuses et épanouies, et c'est déjà énorme par rapport à beaucoup. Je me demande aujourd'hui, si j'étais célibataire, est-ce que je chercherais à me remettre en couple avec un homme? Et la réponse est non. Un grand non qui vient du cœur. Je n'ai plus l'énergie d'être détruite, et je suis trop loin sur mon chemin pour accepter de revenir en arrière. Après, j'ai la chance d'être bisexuelle, et d'avoir du pouvoir sur mes choix amoureux et sexuels dans une certaine mesure. C'est d'ailleurs une question qui est évoquée par Pauline Armange, dans son essai « Moi, les hommes, je les déteste ». Bisexuelle et en couple avec un homme depuis de nombreuses années, elle affirme que si elle se retrouvait célibataire, elle n'irait plus jamais vers un homme. Pour elle, le prix est trop cher à payer, le risque est trop grand. L'énergie qu'il faut pour les éduquer est trop importante. C'est une réflexion que je retrouve dans de nombreuses lectures en ce moment. Et je me rends compte que moi-même, naturellement, je ne m'entoure presque plus que de femmes dans mon univers proche. Amis, personnel de santé, connaissances de travail, moi qui me vantais d'être une fille à groupe de mecs, je ne connais plus vraiment de groupe de mecs, mais en plus j'aurais bien du mal à citer plus de 5 hommes avec lesquels je suis en interaction régulière. Ça s'est fait comme ça, sans que j'y réfléchisse. Je repense aussi à ces années où un des moyens de se sentir bien était de séduire un homme, n'importe lequel. Le plaisir qu'il y a dans cette séduction est un plaisir guerrier, celui d'avoir le sentiment d'être le chasseur, d'avoir le pouvoir. Il ne me semble plus viable sur le long terme. Et j'aurais même tendance à dire qu'il est plus désastreux que bénéfique pour l'ego, parce qu'il valorise une gratification facile, mais sans réelle valeur. Que faire alors? Je ne sais pas. Je vous dirais de ne pas vous mettre en danger. Si à un moment, dans n'importe quelle interaction, vous ne vous sentez pas à l'aise, alors écoutez-vous et n'hésitez pas à vous enfuir. Il existe des hommes décents, j'imagine, et j'ose espérer que si l'un d'eux vous plaît et que vous lui plaisez en retour, vous trouverez un terrain d'entente. Oui, on ne sait pas toujours ce qu'un homme peut faire ou devenir. J'en parlais dans la chronique « C'est compliqué », dont le titre est « J'ai commencé à avoir peur qu'il ait un double visage ». On ne peut totalement se protéger de tout ça, à moins de décider de vivre en ermite ou dans une communauté de femmes autogérées. Je crois cependant qu'on peut vivre dans notre société et se prémunir de la plupart de ces violences en faisant des choix conscients. Les mêmes que j'ai faits inconsciemment, en ne travaillant ou en ne m'entourant quasiment plus que de femmes. Sans oublier de garder son énergie pour des gens qui ont l'air d'en valoir la peine. Même si ceux-ci sont minoritaires. Parce que malgré tout ça, je veux croire qu'ils existent. Cette semaine, pas de spécialiste, mais une réflexion autour de l'œuvre de la romancière et poétesse américaine Melissa Broder, avec ses deux derniers romans, « Sous le signe des poissons », paru ce mois-ci aux éditions Christian Bourgeois, et « Milk Fed », qui vient de sortir aux États-Unis aux éditions Scribner. Cette romancière est également connue pour son essai « So Sad Today », basé sur le compte Twitter du même nom, une suite de réflexions sur son mal-être en général, la dépression, les troubles du comportement alimentaire, les addictions diverses et variées, et les expériences de toutes sortes. Dans « Sous le signe des poissons », le personnage principal, Lucie, part habiter seule chez sa sœur après une rupture difficile et alors que sa thèse est au point mort. Sa dépression, par contre, connaît un pic retentissant, et elle se retrouve à devoir rejoindre un groupe de parole de personnes addictes au sexe et à l'amour. L'autrice aborde tout au long de ce livre ce problème de dépendance affective, qui pousse certains de ses personnages à entretenir des relations, ou semblant de relations, avec des gens qui ne les intéressent pas vraiment, quitte à prendre des risques. Dans le dialogue que vous allez entendre, Lucie discute avec une autre femme de son groupe de parole.
Je suis en train de faire passer des entretiens pour me constituer un harem. Je suis allée à des rencontres sur le polyamour. J'ai connu ce type, Trent, à une réunion de Topanga. Il est un peu plus vieux, il a fait du porno. Il a une queue de cheval et je suis pas sûre de savoir si c'est mignon ou minable. Mais je crois que c'est mignon. Il a une femme, elle a des petits copains. Je vais me le taper demain soir. J'ai aussi rencontré cet autre type qui s'appelle Orion. Il a genre à peine 18 ans, il est super cucu. Il portait un kilt, il est pansexuel. On a passé la soirée à s'emballer, mais il vit dans le Vermont et il est déjà rentré, alors j'en cherche encore un troisième. Je vais peut-être me faire ce type qui travaille chez Best Buy. On a déjà baisé avant, c'est un Jamaïcain. Super bien foutu. Vraiment sympa avec moi.
Ils sont tous polis? David aussi?
Non, lui, je sais pas trop ce qu'il est. Programmateur informatique, peut-être bien autiste. Il fait du yoga, cela dit. Énorme bite.
Trop fun. Je suis jalouse.
Plus tard, Lucie, qui ne va vraiment pas bien du tout, replonge. Elle aussi se dit qu'elle a besoin d'un homme, n'importe lequel, pourvu qu'il lui montre qu'il la désire et qu'elle est digne d'intérêt. Juste après un rapport sexuel décevant et qui ne se passe pas du tout comme elle l'avait prévu, Lucie pense
« Je la jouais décontractée. T'as vu comme je suis cool ? Mais je me sentais triste et en colère. Je n'étais pas venue pour ça. Enfin bon, au moins, c'était quelque chose. Au-delà du vide de mon existence ordinaire. C'était un coup d'épée dans le néant. Mais je voulais vraiment le faire craquer. Je voulais obséder ses pensées. Est-ce qu'il avait profité de moi? Est-ce qu'on peut profiter de vous si vous profitez aussi de l'autre? Est-ce que c'est automatiquement celui qui jouit, le profiteur? Ou bien plutôt celui qui s'attache le moins? J'ai retenu mes larmes en enfilant le trench. J'avais honte qu'il soit dans cet état. Et je ne voulais pas que Garrett s'en aperçoive, même si c'était lui le responsable. Je voulais paraître invulnérable. »
Ces histoires sans lendemain ne sont là que pour combler un vide, et les hommes qu'elle fait rentrer dans son univers sont bien trop pleutres et médiocres pour lui faire réellement du mal. Mais Lucie s'attache à un amant en particulier. Elle tombe même amoureuse de lui. Et là, le risque de souffrir et le prix à payer pour la relation sont plus grands encore. Je cite.
« Et puis je me suis sentie stupide. Pourquoi n'avais-je pas pensé à ça? Je n'avais pas envie d'y penser. Il avait un tel désir pour moi, une envie si désespérée de me voir plonger. Il avait voulu tellement fort que je coule de ma propre volonté. C'est dire à quel point il était vulnérable et impuissant face à ses propres sentiments. Son besoin d'affection était si immense qu'il n'était pas capable d'assumer. Il avait besoin que ce soit le mien, mais cela ne signifiait pas que j'étais la seule. Je n'avais jamais envisagé que toutes celles qui m'avaient précédée pouvaient aussi se trouver au fond. À présent, je frissonnais. Qui était-il ? Un incube qui avait besoin d'être désiré par quantité de femmes ? Qui avait besoin que quantité de femmes meurent pour lui ? Combien de femmes ? Dans mon propre désir de me sentir choisie par cette créature sublimée, je n'avais jamais pensé à me demander si d'autres avaient sauté le pas avant moi. Il me paraissait impossible que son besoin d'être désiré soit plus vorace que le mien. Sexuellement, j'avais rencontré ce genre de besoin, chez les playboys et les connards. Mais leur désir était purement physique. Ils n'attendaient rien d'autre de moi que du sexe, et surtout pas de l'amour. Ils ne voulaient pas de ma vie. C'était moi qui la leur imposais. Et maintenant, voilà un homme qui avait besoin de mon amour et de ma vie. Mais mon amour et ma vie, et la vie de combien d'autres femmes ? J'ai ressenti un picotement dans les yeux. Je pleurais.
Dans Milk Fed, qui n'est pas encore disponible en français, l'autrice revient sur ces thématiques et oppose même à travers son personnage principal les effets du désir et des relations avec une femme ou avec un homme. Le constat est toujours le même. Si le plaisir de la conquête est supérieur au départ dans le cadre de la séduction d'un homme, c'est bien dans la relation avec une femme, que ce soit une amante ou une amie, que le personnage s'épanouit vraiment. Cela ne veut pas dire que ces relations auront aussi des happy ends. Elles vécurent heureuses et eurent beaucoup d'enfants n'existe pas chez Melissa Broder. Mais la question est posée. Qu'est-ce que les hommes ont à apporter aux femmes ? Sa réponse en plusieurs livres est catégorique. Pas grand-chose. Comme un paquet de cigarettes, deux ou trois pots de glace surcaloriques, les hommes sont dangereux à la fois pour les plaisirs éphémères qu'ils procurent et pour le prix, au niveau de la santé mentale et physique, qu'ils coûtent. Melissa Broder ne propose pas de solution. Elle constate et invite à trouver un apaisement dans une société qui, parce que nous sommes des femmes, nous veut du mal de manière systémique. Dans ses livres, cet apaisement ne passe pas forcément par le rejet des normes et des codes de la société dans son ensemble, mais par la reconnaissance et l'acceptation de nos besoins et de nos limites. Un appel, en somme, à la bienveillance tournée vers soi. Pour aller plus loin, je vous conseille cette semaine de découvrir ou redécouvrir l'essai de Pauline Armange « Moi, les hommes, je les déteste ». C'est un petit livre qui se lit très bien et qui revient sur la question de la misandrie, son sens et ses conséquences. Posé, sans colère, il partage une réflexion aboutie de son autrice et invite à se demander où nous nous positionnons dans nos relations avec les hommes. C'était « C'est compliqué » le podcast. Merci au merveilleux Benjamin Septem-Ours et Aurélie Rodriguez pour la réalisation et le montage. Si vous aussi vous voulez témoigner, n'hésitez pas à me laisser un message vocal. Vous pouvez vous enregistrer sur votre téléphone et nous envoyer ce message par mail à c'estcompliqué.slate@gmail.com ou nous envoyer un message vocal par WhatsApp au 07 61 76 74 01. N'oubliez pas de me laisser un prénom ou un pseudo, votre âge et éventuellement votre ville. Enfin, l'adresse mail c'estcompliqué@slate.fr et la chronique hebdomadaire restent toujours d'actualité. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, nous mettre 5 étoiles pour nous soutenir, laisser un commentaire ou en parler autour de vous. Tous les autres épisodes sont à retrouver sur slate.fr ou votre application de podcast préférée. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.